Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre émission Campus Zoom, l'émission qui fait un zoom sur un thème local. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Noël en compagnie de Benoît.
Salut à tous!
Je vais vous conter ses origines, notamment païennes, puis chrétiennes, et sa mondialisation, tandis que Benoît se chargera de vous renseigner sur l'histoire du calendrier de l'Avent, de la modernisation, et l'impact cinématographique de Noël, et également de sa grande figure, le Père Noël, qui porte un lien que l'on attribue à la grande marque Coca-Cola. Noël, une fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre, a avant tout une origine païenne. En effet, les historiens se sont accordés à reconnaître que, bien avant l'époque romaine, on fêtait, à la fin du mois de décembre, la renaissance de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Ces origines justifient le surprenant mélange de civilisations diverses expliquant les différentes traditions à travers les pays. La religion chrétienne n'existait même pas encore à cette période, et ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église s'est mise à rechercher la naissance du Christ. Il a donc fallu plusieurs siècles avant de s'intéresser à cette date de naissance, car jadis, on trouvait la date de mort et de la résurrection bien plus importante. En réalité, nous n'avons jamais pu la déterminer avec exactitude et la date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome afin de christianiser les rites issus de la culture populaire. C'est alors que l'on peut qualifier ceci, à juste titre, d'invention. Le choix de cette date est attribué à Constantin, empereur romain, s'étant converti au christianisme au IVe siècle et voulant entraîner tout son peuple avec lui dans son choix, quitte à les obliger. Une stratégie visant à évincer les païens, les réduire à l'oubli, en plus de les avoir par la suite massacrés et avoir détruit leurs croyances et leur culture. Ainsi, les fêtes païennes ont toutes été interdites, mais remplacées, afin de faciliter la conversion au christianisme, le tout, paradoxalement, en se fondant sur ces traditions jugées de sataniques. Ironique, n'est-ce pas ? Difficile d'accorder du crédit à ce qui est considéré comme étant satanique, lorsque l'on sait que cela définit toute chose non chrétienne. Un moyen alors de contrôler la population, en les faisant vivre dans la terreur, tout en conduisant à des actes barbares et entraînant une grande intolérance. À Rome, avant l'appropriation du 25 décembre, était célébrée une fête, Saturnalia, également religieuse, le culte de Mithra, né à ce jour. Une divinité venue de la Perse et incarnant la lumière. Chez les Celtes aussi, cette date était liée à la religion païenne, qui cherchait à favoriser le retour du soleil après le jour le plus court de l'année. Le solstice d'hiver, qui a lieu durant cette période, marque le retour des jours qui rallongent par rapport à la durée de la nuit. Il s'agissait alors de hâter la renaissance de la nature et être à l'affût des premiers signes que les prochaines récoltes seraient abondantes en se montrant plaisant avec les dieux. Un phénomène que les civilisations d'autrefois, très proches de la nature, n'ont pas manqué d'observer. Le terme de Noël n'existait pas encore à cette période. Les origines de l'appellation Noël, utilisée en France, viendraient du gaulois noyo, signifiant nouveau, et elle, signifiant soleil. Les origines païennes ne font une nouvelle fois aucun doute jusqu'à déterminer ce nom. En Espagne, cette fête porte le nom de Navidad, au Portugal, Natal, et en Italie, Natale, cette fois se référant directement à la notion de naissance. Chez les anglophones, c'est le terme Christmas, soit messe du Christ, qui est utilisé. Des variantes qui semblent plus logiques que l'appellation française. Il existe aussi d'autres appellations en fonction des différents langages, mais celles-ci sont les plus connues. Au Moyen-Âge, Noël était un cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Au fil du temps, cette célébration a progressivement conquis l'Europe, puis s'est étendue progressivement à mesure que la religion a fait de nouveaux adeptes. Au XVIIIe et au XIXe siècle est apparue ensuite la coutume d'offrir des cadeaux, symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus, ce qui représente aujourd'hui la principale pratique de cette fête, critiquée parfois en étant qualifiée de commerciale, un peu rabat-joie ceci dit. Noël est à présent l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes et populaires. Aujourd'hui, avec le recul de la religion chrétienne, notamment en Europe, Noël a un peu perdu ses enjeux religieux en faisant une fête plutôt familiale et conviviale. Cependant, les marques religieuses sont loin d'être totalement disparues et elles sont encore nombreuses. Du côté des païens, tout n'a pas été complètement décimé, car malgré tout, certaines connaissances, croyances et coutumes ont survécu. Maintenant, La fête originelle a été nommée Yule, désignant la période du solstice d'hiver. Cette fête est ce que l'on appelle un sabbat, un nom attribué aux fêtes saisonnières, comme Samhain, dont nous avons parlé à l'occasion de Halloween. Cette célébration a lieu à présent du 21 décembre au 1er janvier. Le solstice a longtemps été considéré comme un jour de naissance divine et l'est encore aujourd'hui. Yule marque toujours le moment de l'année où l'obscurité est la plus profonde et le jour le plus court. Certains célèbrent cette fête, parfois juste avant l'aube, avant d'admirer le magnifique lever du soleil pour conclure leurs efforts. Cela symbolise la renaissance de l'astre solaire, l'énergie vitale, le feu intérieur renaît. Un feu où des chandelles peuvent être allumées pour accueillir le retour de la lumière solaire. Niveau croyance, l'une dit que la déesse païenne associée à l'automne et à l'hiver donnait naissance à un fils, le dieu associé au printemps et à l'été, et somnolé après son accouchement, laissant place à la saison nouvelle. Nous reconnectant à la douceur, nous libérant et laissant place à la joie. La tradition veut que, la veille du solstice, une bûche en chêne, provenant du lieu où l'on vit, soit décorée de végétation. Différents rituels peuvent être pratiqués à ce moment, en l'honneur des dieux, pouvant provenir du panthéon grec, romain, celte, nordique, et d'autres encore, en fonction des croyances. S'échanger des cadeaux est également de mise, une manière de rapprocher les cœurs, de signifier aux autres que l'on tient à eux et de se souvenir que l'on appartient à un tout. Il s'agit de faire preuve de bienveillance, d'écoute et de générosité. Il est d'usage de faire la paix avec son passé pour repartir de plus belle. Des bâtons de fumigation ou de la soge peuvent être brûlés afin de purifier son habitat, permettant un potentiel nettoyage énergétique et d'assainir l'air. Certaines recettes peuvent être cuisinées à l'occasion. On se repose, on médite, on fait du yoga. On pose nos intentions pour l'année à venir. On formule nos nouvelles résolutions. On se reconnecte à notre voix intérieure. Le symbole de Yule est un arbre représentant la vitalité. Nous pouvons le décorer au même titre que l'on décore un sapin pendant Noël. La couronne de Hou est aussi associée à ces croyances, celtes cette fois. La mythologie veut que le roi Hou, symbolisant la mort, laisse sa place à son frère, le roi Shen, symbolisant la vie. La religion juive, à cette période, fête Hanouka, commémorant la victoire des Maccabées et la purification du temple de Jérusalem. Les Maccabées étaient une famille juive. Au IIe siècle avant notre ère, la Judée était sous le contrôle du roi Séleucide Antiochus IV, qui a interdit la pratique du judaïsme. Les Maccabées, dirigés par Judas Maccabée, ont mené une révolte contre l'oppression et ont réussi à reprendre le contrôle du temple de Jérusalem. Cela dure 8 jours, lors desquels sont allumées progressivement les bougies de la Ménorah, un chandelier à 9 branches, jour après jour. C'est une période de prière, de chant et de partage. C'est une fête de tradition familiale. En ce qui concerne les autres religions, elles n'ont pas de fête en décembre précisément, mais ont leur propre fête, se basant sur leur propre calendrier, ce qui fait varier les dates sur notre calendrier.
En parlant de calendrier, penchons-nous maintenant sur le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent est une tradition de Noël qui remonte au XIXe siècle. Originaire d'Allemagne, il est maintenant célébré dans de nombreux pays du monde entier. Le calendrier de l'Avent est une façon de compter les jours jusqu'à Noël, du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. La tradition du calendrier de l'Avent remonte à l'époque où les parents protestants allemands marquaient avec une craie les jours de l'Avent sur les portes ou les murs de leur maison pour aider leurs enfants à patienter jusqu'à Noël. Plus tard, cette pratique se transformait en allumage de bougies pour chaque jour de l'Avent. Avec le temps, ces coutumes ont évolué pour devenir le calendrier de l'Avent que nous connaissons aujourd'hui. La première version imprimée du calendrier de l'Avent est apparue à Munich, en Allemagne, en 1903. Elle a été créée par un libraire nommé Gerhard Lang. Enfant, la mère de Lang lui donnait des images pieuses suspendues à un carton pour chaque jour de l'Avent. En se souvenant de cette tradition, Lang a eu l'idée de créer un calendrier avec de petites portes ou des fenêtres que les enfants pourraient ouvrir chaque jour. Les premiers calendriers de l'Avent étaient simplement des images ou des versets bibliques, mais à partir des années 1920, ils ont commencé à contenir de petits cadeaux, comme des jouets ou des chocolats. Cette tradition a été interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de la pénurie de papier, mais elle a été ravivée dans les années 1950. Aujourd'hui, le calendrier de l'Avent contient une variété de surprises, allant de jouets au chocolat, en passant par les cosmétiques et même les boissons alcoolisées pour les adultes, Comment évidemment ne pas citer les très célèbres calendriers de l'Avent faits par la marque de la brique danoise Lego, ou encore les calendriers de l'Avent de la marque Kinder, Milka, Ferrero et toutes les autres marques connues de friandises de confiserie. Ils sont devenus un élément incontournable de la décoration de Noël dans de nombreux pays. En plus des versions commerciales, beaucoup de gens créent également leur propre calendrier de l'Avent, ajoutant une touche personnelle et créative à cette tradition de Noël. La tradition du calendrier de l'Avent est un moyen merveilleux de célébrer la période de l'Avent en attendant Noël. Il utilise la créativité et la générosité des gens pour faire patienter jusqu'à Noël. Mais alors, Noël, maintenant, la modernisation de Noël, comment ça s'est passé? Eh bien, la modernisation de Noël a des racines dans l'Europe du 19e siècle où les traditions du vieux monde ont commencé à se mélanger avec les progrès de l'époque moderne, créant ainsi le Noël que nous connaissons et aimons aujourd'hui. En Angleterre, le conteur Charles Dickens a joué un rôle déterminant dans la modernisation de Noël avec son livre « Un chant de Noël » publié en 1843. Le conte de fantômes de Noël a capturé l'imagination du public avec son message de générosité et de bienveillance. Il a revitalisé l'esprit de Noël en Angleterre et a établi des éléments fondamentaux comme la réunion de famille, les repas festifs et le partage des cadeaux. Dans le même temps, la reine Victoria et le prince Albert ont popularisé l'arbre de Noël en Angleterre. Originaire d'Allemagne, l'arbre de Noël est devenu un symbole central de la célébration de Noël dans de nombreuses cultures. Les décorations de l'arbre, notamment les bougies qui sont maintenant très souvent remplacées par des lumières électriques à LED, les guirlandes et les ornements ont également été popularisés pendant cette période. Aux États-Unis, la modernisation de Noël a également commencé au 19e siècle. En 1822, Clément Clark Moore a écrit une visite de Saint-Nicolas, plus connue sous le nom de « La nuit avant Noël ». Ce poème a défini l'image moderne de Santa Claus, un homme jovial, rondouillard et généreux qui voyage dans les traîneaux tirés par 8 rennes pour livrer des cadeaux aux enfants dans le monde entier. Le Santa Claus moderne a été encore plus défini par les dessins de Thomas Nast, un caricaturiste politique du 19e siècle. Nast a illustré Santa Claus pour le Wappers Weekly de 1863 à 1886, ajoutant des détails comme la liste de Santa de bons et de mauvais enfants, son atelier au pôle Nord et ses elfes d'aide. Le concept des cartes de Noël a également vu le jour au 19e siècle. La première carte de Noël commerciale a été créée par Sir Henry Cole en Angleterre en 1843. Les cartes de Noël sont rapidement devenues une façon populaire d'envoyer des vœux de Noël à la famille et aux amis, une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Comment ne pas parler de Noël sans parler de l'affiliation de la figure emblématique de Noël, le Père Noël, plus précisément Saint-Nicolas ou Santa Claus, avec la marque de boisson la plus connue de notre ère, qui est le Coca-Cola. Quel est le rapport également? Pourquoi est-ce que tout le monde parle de Coca-Cola et du Père Noël, à croire que certains sont persuadés que c'est bien un Coca-Cola, la marque qui a créé le Père Noël? La relation entre le Père Noël et la marque Coca-Cola est un exemple fascinant de marketing réussi et de la façon dont une entreprise peut influencer durablement une tradition culturelle. Elle a commencé dans les années 1930, lorsque la compagnie Coca-Cola a décidé de lancer une campagne publicitaire pour augmenter les ventes pendant l'hiver, une période traditionnellement plus lente pour la consommation de boissons fraîches. En 1931, Coca-Cola a engagé l'illustrateur Adam Sunblum pour créer des images du Père Noël pour sa campagne publicitaire de Noël. Sunblum a choisi de représenter le Père Noël comme un homme robuste et joyeux, avec une barbe blanche, un costume rouge et blanc et un grand sac de cadeaux. C'est cette représentation qui deviendra plus tard l'image emblématique du Père Noël dans l'esprit du public. Sunblum a continué à créer de nouvelles illustrations du Père Noël pour Coca-Cola pendant plus de 3 décennies, contribuant à renforcer l'image de la marque et à établir le Père Noël comme un symbole de la joie et de la générosité de la saison des fêtes. Les illustrations de Sunblum ont souvent montré le Père Noël en train de profiter d'une boisson Coca-Cola, renforçant l'association entre la marque et le personnage. Au fil des ans, l'image du Père Noël de Sunblum est devenue si populaire qu'elle a commencé à définir l'apparence du Père Noël dans d'autres aspects de la culture populaire. Avant cela, le Père Noël était souvent dépeint comme un homme plus petit et plus elfique et n'avait pas de consensus sur la couleur de son costume. Il est important de noter que Coca-Cola n'a jamais inventé le Père Noël, ni même été la première entreprise à le représenter en rouge et blanc, les couleurs traditionnelles de Saint-Nicolas, le saint patron des enfants dont la légende du Père Noël est en partie dérivée. Cependant, l'impact de leur campagne publicitaire a été tel que beaucoup de gens attribuent aujourd'hui ces éléments de l'image du Père Noël directement à Coca-Cola. Aujourd'hui, les publicités de Coca-Cola avec le Père Noël sont une caractéristique attendue de la saison des fêtes et les images originales de Sunblown sont souvent reproduites sur les produits et les collectibles. Même si l'image moderne du Père Noël est le résultat de nombreuses influences différentes au fil des ans, il ne fait aucun doute que Coca-Cola a joué un rôle très majeur dans la façon dont nous visualisons aujourd'hui Noël et le Père Noël. Noël a été un sujet populaire dans le cinéma également depuis ses tout débuts. Que ce soit des films qui célèbrent l'esprit de la saison, des drames qui utilisent la période des fêtes comme toile de fond, ou des comédies qui se moquent des excès et des absurdités de cette époque de l'année, Noël a été représenté de nombreuses façons différentes à l'écran. L'un des premiers films de Noël fut Le Cantique de Noël, Scrooge, une adaptation de 1901 du classique de Charles Dickens. Depuis lors, l'histoire de Dickens a été adaptée à de nombreuses reprises, avec des versions allant du traditionnel comme le film de 1951 avec Alastair Sim, à l'innovant comme Scrooge de 1988 avec Bill Murray. L'âge d'or d'Hollywood a produit certains des films de Noël les plus aimés et les plus durables. It's a Wonderful Life de 1946, réalisé par Frank Capra en mettant en scène la vedette James Stewart, est peut-être le plus célèbre. Bien qu'il n'ait pas été un grand succès à sa sortie, il est devenu un classique grâce à ses diffusions répétées à la télévision pendant la période des fêtes. De la même époque, Miracle on 24th Street de 1947, dans lequel un jeune Natalie Wood croit que le Père Noël est le vrai Père Noël, est un autre classique très aimé. Dans les années 80 et 90, les films de Noël ont souvent pris une tournure plus comique. National Lampoon's Christmas Vacation de 1989 met en scène la famille Griswold dans une série de mésaventures de vacances hilarantes, tandis que Home Alone de 1990 voit un jeune Macaulay Culkin défendre sa maison contre deux cambrioleurs maladroits. Le film d'animation The Nightmare Before Christmas de 1993, produit par Tim Burton, a apporté une touche gothique à la saison des fêtes. Plus récemment, les films de Noël ont continué à explorer différents genres et perspectives. Love Actually de 2003 entrelace une série d'histoires d'amour pendant la période des fêtes à Londres, tandis que Elf de 2003 met en scène Will Ferrell en elfe jovial qui se rend à New York pour trouver son père biologique. The Holiday de 2006 utilise Noël comme toile de fond pour une comédie romantique et le film d'action Iron Man 3 de 2013 se déroule pendant la période des fêtes. Enfin, on ne peut pas ignorer l'impact des films d'animation sur la culture cinématographique de Noël. Des films comme Frosty the Snowman, Rudolph the Red-Nosed Reindeer et How the Grinch Stole Christmas ont un attrait intemporel qui sont devenus des incontournables de la période des fêtes pour les enfants de tout âge. Plus récemment, les films comme Polar Express de 2004, une adaptation de livre pour enfants de Chris von Hasberg et Archer Christmas de 2011, qui racontent l'histoire du fils maladroit du Père Noël, ont rapporté une nouvelle génération de magie de Noël à l'écran. Il y a aussi eu une série de films de Noël qui ont exploré les thèmes plus sombres, les plus adultes, Bad Santa de 2003 avec Billy Bob Thornton en Père Noël escroc et alcoolique est un très bon exemple. Krampus de 2015 est un autre exemple, mélangeant le folklore européen et l'horreur pour raconter l'histoire d'une entité maléfique qui punit ceux qui ont perdu l'esprit de Noël. Les films de Noël ont également été utilisés pour explorer les thèmes sociaux et politiques. Joyeux Noël de 2005 raconte l'histoire vraie d'une trêve non officielle pendant la Première Guerre mondiale où les soldats ennemis ont partagé un moment de paix et de camaraderie pendant la période des fêtes. The Man Who Invented Christmas de 2017 explore la création du Cantique de Noël de Dickens et ses commentaires sur les inégalités sociales de l'époque victorienne. Dans l'ensemble, les films de Noël sont une partie importante de la culture cinématographique. Qu'ils célèbrent l'esprit de la saison, réfléchissent à ses excès et ses absurdités, ou utilisent simplement le cadre festif pour raconter des histoires d'amour, d'aventure ou de comédie, ces films ont contribué à façonner notre compréhension et notre célébration de cette période de l'année. Ils continuent d'évoluer et de s'adapter, reflétant les changements de notre monde tout en restant fidèles à l'esprit de joie, de générosité et d'espoir qui est au cœur de la saison des fêtes. Alors que nous tirons le rideau sur cette émission spéciale pour Noël, réfléchissons un instant à ce que cette saison représente réellement. Noël, plus qu'un simple jour de l'année, est un sentiment qui incarne l'amour, la joie et la générosité. C'est un temps de réunion et de célébration, un temps où nous mettons de côté nos différences pour embrasser l'esprit de bonté et de partage. Noël a le pouvoir magique de transformer les cœurs les plus durs et de raviver l'espoir là où il semblait perdu. C'est une période où les lumières scintillantes et les arbres décorés illuminent nos maisons, mais aussi nos cœurs. C'est une saison qui nous rappelle de chérir ceux que nous aimons, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et de cultiver la gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. Et n'oublions pas l'essence même de Noël, le cadeau et l'amour de la vie. La naissance d'un enfant dans un étable à Bethléem, il y a plus de 2000 ans, a changé le cours de l'histoire et continue de toucher les vies aujourd'hui. C'est ce message d'espoir et de rédemption qui résonne encore et qui est au cœur de nos célébrations. En ce moment de joie, de partage et de réflexion, prenons tous un moment pour apprécier les miracles qui nous entourent, que ce soit le sourire d'un enfant, le rire d'un proche ou simplement le calme qui vient avec la chute de la première neige. Alors, mes chers auditeurs et auditrices, au fur et à mesure de cette émission se termine, je vous encourage à emporter avec vous l'esprit de Noël et à le faire briller dans votre vie quotidienne. Que l'amour, la paix et la joie de Noël vous apportent, remplissent vos cœurs et vos foyers cette saison tout au long de l'année à venir. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, c'est maintenant que se clore ce Zoom spécial sur Noël. Maintenant, Noël n'a plus aucun secret pour vous. Nous espérons que nous avons réussi à vous faire apprendre beaucoup de choses, c'est le cas pour nous en tout cas. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce Zoom via les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes sur la rubrique podcast sur le site radiocampuspo.fr. Vous pouvez également nous suivre via les réseaux sociaux sur Radio Campus Po sur Instagram. On vous y attend nombreux et nombreuses. N'hésitez pas en tout cas à nous faire part de vos retours sur cette émission. En tout cas, nous, on se dit à bientôt et passez à tous et à toutes une très bonne soirée et un très bon week-end.